Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Arsène Lupin, nous l'avons tous croisé. Le jour sans le savoir, peut-être, la nuit sans le reconnaître. L'avons-nous tous vu au cinéma ou à la télévision? Au début des années 70, Georges Descrières devient Arsène Lupin. Henri Virelogeux devient Herlock Sholmès, Roger Carrel, le commissaire Guerchard. Mais comment tout cela s'est-il passé? Le bouchon de cristal, Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, la demoiselle aux yeux verts, la femme aux deux sourires, font partie de la première saison des aventures d'Arsène Lupin sur la deuxième chaîne. Dans le texte et la marge, le 8 avril 1971, sur France Culture, Françoise Favier s'intéressait au gentleman cambrioleur sur le petit écran.
C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien sans gants, à l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans scène, l'Arsène. Quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vide les poches, sans arrivage, l'Arsène. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombes. Il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, l'Arsène.
Depuis trois semaines, les téléspectateurs peuvent suivre sur leur écran une série Arsène Lupin. J'ai réuni aujourd'hui le fils de l'auteur d'Arsène Lupin, Claude Leblanc. Jacques Naoum est aussi à notre micro. Jacques Naoum qui a été à l'origine de la mise en image de certains Arsène Lupin et qui a participé à l'adaptation de ces Arsène Lupin. Également à notre micro, Arlette Brunel qui représente aujourd'hui le livre de poche où sont sortis tous les Arsène Lupin. Claude Leblanc, je voudrais d'abord vous demander quand et comment Arsène Lupin est né.
Arsène Lupin est né à la fin du siècle dernier. Mais il n'était guère connu du public qu'en 1905, où a été publiée dans Je sais tout la première nouvelle qui s'appelle L'arrestation d'Arsène Lupin, qui a été un grand succès et qui a incité l'éditeur de l'époque, Pierre Lafitte, à demander à mon père, Maurice Leblanc, de poursuivre d'autres nouvelles sur Arsène Lupin, et ceci a été à l'origine du premier livre sur Arsène Lupin qui s'appelle Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, et qui se situe vers 1907 à peu près.
Comment ce personnage est-il venu à l'imagination de notre père?
Je crois qu'il n'y a pas d'indice réel. Je sais qu'on a prétendu qu'il s'était inspiré d'un anarchiste qui avait, au début du siècle, connu un certain retentissement. Je ne le pense pas. En tous les cas, il n'en a jamais parlé. Et au cours du début du siècle, jamais personne n'a fait aucune allusion à cette analogie. Il avait appelé son personnage au début Arsène Lupin. Il y avait un conseiller municipal d'une petite ville de l'Est qui avait protesté contre ce nom de Lupin et considérait que le personnage le déconsidérait. Et par conséquent, mon père a remplacé le mot Arsène Lupin par Arsène Lupin et au total, je crois qu'il a bien fait.
Et il n'a écrit que des Arsène Lupin ou est-ce qu'il y a eu d'autres livres?
Il avait écrit d'abord, avant de commencer les Lupins en 1905, il avait écrit des romans de caractère psychologique. Mais par la suite, il a coupé de temps en temps ses aventures de Lupin par d'autres romans, soit des aventures, comme Le Prince de Jéricho, soit des romans à tendance un peu pseudo-scientifique. Ça a été le formidable événement où il supposait qu'il y ait la terre entre la Grande-Bretagne et la France surgissait. Et par conséquent, ça posait toute une série de problèmes politiques, de partage des trésors enfouis. Ou bien les trois yeux dans lesquels il supposait que nous recevions des rayons qui provenaient de Mars, où des êtres très intelligents essayaient de communiquer avec nous.
Lupin, lui, sans être un bienfaiteur, se pose très souvent en justicier. Il s'attaque notamment aux fortunes mal acquises.
Ça, c'est un des grands traits de son personnage. c'est qu'il a un caractère social. Et dans cette mesure, il essaie d'assurer une meilleure répartition des richesses.
Arsène Lupin a un esprit déductif et inductif, et c'est à force d'observation qu'il parvient à la vérité.
Oui, c'est exact. Mon père mûrissait très lentement ses romans. Il ne faisait pas des romans, je ne voudrais pas prendre un mot péjoratif, mais à la chaîne. Mais il mûrissait ses romans pendant 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que pendant qu'il écrivait un roman à une cadence extrêmement lente, puisqu'en moyenne il écrivait un roman par an, il mûrissait déjà 1 ou 2 romans suivants. Et quelquefois, ce roman suivant, il ne l'écrivait pas. Il le conservait. Il y pensait de nouveau pendant des nuits d'insomnie ou des heures de réflexion dans la journée au coin du feu. Et puis un jour, quand il avait suffisamment mûri son scénario, il commençait la rédaction.
Je me demande, par diverses réactions, Arlette Brunel, si les Arsène Lupin et la lecture suivie de toutes ces aventures ne s'adressent pas plus spécialement à des jeunes, disons maintenant, de 10 à 15 ans.
Effectivement, il y a une telle imagination, il y a un tel débordement d'invention, le surnaturel, le fantastique, il y a tellement de données extraordinaires que ça ne peut que satisfaire énormément la jeunesse. Mais je ne crois pas qu'il faille limiter aux jeunes la lecture d'Arsène Lupin. On ne vend pas 2 600 000 exemplaires de Lupin juste à des jeunes.
On peut dire, je crois, que Lupin relève plus du roman d'aventure que du policier avec des X, avec indices matériels.
Il n'y a pas que de l'indice, il n'y a pas que du policier dans Maurice Leblanc, semble-t-il. Il fait du roman psychologique, du roman, beaucoup de romans, je pourrais dire, bourgeois, des romans à la Paul Bourget.
Oui, il y a de la peinture de mœurs sans arrêt. On peut reconstituer très bien son époque à travers l'intrigue. Oui.
Son époque et surtout tous les gens d'un certain milieu, tout le milieu politique, également tout le milieu normand, qu'il a très bien connu, les obereaux normands, les fermiers, et le milieu parisien. Si on prend le bouchon de cristal, c'était le fameux scandale de Panama qui avait défrayé la chronique à l'époque. Et bon, il a fait une transcription de ces événements et des personnes qui ont été mêlées. Il y a aussi beaucoup, Madame Brunel disait tout à l'heure, il y a beaucoup de fantastique. Effectivement, par exemple, L'île aux 30 cercueils. Toute la première partie est un roman fantastique. Et brutalement, parce qu'il, probablement, ses éditeurs lui réclamaient du Lupin, il y a introduit Lupin. Mais Lupin y arrive comme un deus ex machina. Il y a énormément aussi de science-fiction. Il est préoccupé par les recherches, par les découvertes, les sous-marins mystérieux. Il y a aussi du roman historique. Je peux dire de l'archéologie. Est-ce que votre père a été très influencé par cette espèce de recherche qu'il y a eu, notamment en Normandie, sur le trésor des Templiers? Parce qu'il semble très, très préoccupé par la découverte des trésors.
De manière générale, il s'est beaucoup intéressé à tous ces problèmes de trésors. Il a lu une quantité de documents sur les druides, sur l'histoire de France. Il a fouillé, si je peux dire là, et il a toujours essayé de retrouver, que ce soit les trésors des rois de France, que ce soit des trésors qui étaient cachés. Il a toujours essayé de donner un caractère historique à certains épisodes de son œuvre.
Et il y a surtout, alors finalement, cette influence du mouvement anarchiste. On a prétendu que le Maurice Leblanc s'était inspiré de Jacob, l'anarchiste célèbre, pour décrire et incarner Lupin. Je ne sais pas si cela est vrai, puisque M. Leblanc le nie, mais il a quand même subi cette influence, puisque le comportement de Lupin est un comportement d'anarchiste de l'époque. C'est-à-dire qu'il considère que l'action individuelle doit le conduire à rectifier, à rétablir un certain équilibre, une certaine répartition de richesses.
Vous avez dû faire un choix parmi ces Arsène Lupin, en retenir quelques-uns. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied cette affaire?
À la télévision, notamment, il n'y avait pas de héros d'aventure proprement français et relativement moderne. Les autres étaient des gens violents, discourtois vis-à-vis des dames, et désagréables dans le comportement général, inélégants. Il fallait donc retrouver un personnage dans lequel toutes les qualités de courtoisie, d'élégance pouvaient se retrouver. Et nous avons à la télévision aujourd'hui Arsène Lupin qui ridiculise un petit peu gendarme. Mais c'est de la bonne tradition française.
Mais gentiment. Si l'on prend par exemple Agatha Christie, son détective Hercule Poirot est un monstre de vanité. Dans Simenon, Maigret est socialement plus terne, plus réaliste, alors que le héros de Maurice Leblanc, lui, a un côté vif, charmant, léger, on peut presque dire sans prétention. Est-ce qu'il n'y aurait pas relation entre ce caractère et l'époque où se situent ces aventures? C'est aussi l'époque du Grand Guignol, du musée Grévin, du Bœuf sur le Toit.
Il fallait quand même trouver une époque moyenne qui a une certaine distance. Mmh. Donc, ce n'est pas tout à fait l'époque du Bœuf sur le Toit. C'est nous qui avons choisi l'époque du Bœuf sur le Toit.
Mmh. Et pourquoi l'avez-vous choisi?
Justement, parce qu'il y avait assez de distance avec l'autre époque d'aujourd'hui pour que le personnage soit assez éloigné et quand même assez proche pour que nous soyons sensibles à ses qualités et à l'époque. Parce qu'il fallait quand même donner une certaine homogénéité. Et d'autre part, cette unité de personnage pas trop éloigné de nous, impliquait également du point de vue des moyens de locomotion pour le cinéma, pour la télévision. Lupin, même en 1909 ou même avant, utilise des voitures des bolides. Mais pour le public, un bolide de 1909, qu'est-ce que c'est si ce n'était pas la grande Bugatti? Et pour eux, d'ailleurs, finalement, les voitures d'ailleurs, n'ont pas beaucoup évolué. Je parle des voitures de luxe. Entre 1909 et 1925-30. Donc c'était toujours ces voitures d'artisans, puisqu'on sait qu'il y avait en 1927-28 en France 240 constructeurs de voitures. En France, les gens allaient chez le couturier des voitures pour avoir une voiture, des gens qui avaient les moyens.
Oui, c'est une excellente initiative que d'avoir transposé en 1925.
Je constate que les films qui ont été réalisés soit se placent sur un Lupin tout à fait moderne, et là c'est quelquefois un peu choquant, soit alors se placent dans la situation de 24-25. Oui.
Jeudi prochain, c'est-à-dire jeudi 15, on va pouvoir voir sur le petit écran Agence Barnett. Dans Agence Barnett, vous avez pris deux des épisodes et vous les avez adaptés avec René Véler. Je crois qu'il y a des difficultés qui se posent pour vous, différentes selon le choix que vous avez fait de l'aventure, dans la mesure où parfois vous avez été obligé de ramener à une dimension plus courte que celle du roman, et d'autres fois vous êtes obligé de réunir deux aventures.
Le principal problème, finalement, et n'est pas tant la réunion de deux épisodes en un. Le vrai problème, c'est la réduction d'un roman en 55 minutes, qui est le standard des séries de télévision. Là, il y a une difficulté, car quand même, on amoindrit, pas le rôle de Lupin, mais les situations dans lesquelles il s'en sort avec une certaine dextérité et où on met en valeur. C'est là le vrai problème. Vous parliez de Barnett,
oui,
qui est notre cinquième épisode.
Qui va passer donc jeudi prochain.
Oui, le personnage de Barnett est un personnage très amusant. Lupin, et là je crois que c'est aussi une astuce de Maurice Leblanc, Barnett n'est pas Lupin. Barnett est un personnage très sympathique, un détective privé qui s'amuse à faire concurrence à la police, et bien entendu à...
Avec beaucoup plus de succès que, oui, son concurrent.
Oui,
officiel.
Mais d'autre part, il a à se payer des honoraires assez substantiels sur les affaires dont il s'occupe. L'astuce de Maurice Leblanc a été simplement de dire « Monsieur Jim Barnett, c'est Lupin. Lupin déguisé. »
Il y a également une autre difficulté. C'est que dans le roman, par exemple, Victor de la Brigade Mondaine, le lecteur ne sait pas dès le début que Victor est Arsène Lupin. S'il a un petit peu d'imagination, il le sent, il le pressent. Mais le coup de théâtre arrive à la fin. Quand on voit le personnage à la télévision, on reconnaît, quel que soit le grand art d'Elicrière pour se déguiser, pour se grimer, rapidement on reconnaît. Par conséquent, là, il y a inévitablement une transposition de roman qui ajoute beaucoup à la difficulté de l'adaptation.
J'ai trouvé que Descrières, contrairement à certains interprètes de films, a donné un certain quant à soi qui est très agréable. Il n'a jamais l'air de se prendre au sérieux.
Oui, c'était la...
Le héros, dans le livre non plus, ne se prend pas trop au sérieux. Même Herlock Sholmes le lui reproche. Son concurrent anglais le met en garde plusieurs fois et lui dit « Cela vous perdra, votre sûreté de vous. Votre... » Il prend des risques pour la beauté de signer un geste, un coup signé Lupin. Il prend des risques. Il ne se prend pas du tout au sérieux.
Non, mais je ne disais pas par rapport au héros du livre, mais par rapport à d'autres interprétations, puisque d'autres acteurs l'ont joué, Robert Lamoureux notamment.
Oui, disons que Robert Lamoureux n'était pas le personnage. N'était pas exactement le personnage, il manquait d'une certaine élégance. Parce que,
C'était une autre composition.
Il avait du charme. Il avait un certain charme, il avait la gouaille que peut-être Descrières n'a pas tout à fait. Mais ce n'est pas gênant parce que la gouaille n'étant pas le caractère essentiel de Lupin, on a joué surtout la désinvolture. Et c'était une des grandes difficultés pour le choix du héros. Et je vois que quand on a pensé, moi j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir le héros. Et ce qui est assez difficile, c'est qu'il y a eu énormément de divergence quand on s'est réunis autour d'une table pour le choix de Lupin. Mais je rentrais chez moi et je disais, non, quand même, c'est Descrières.
Et ça a été Descrières.
Et ça a été Descrières. Bon, il y avait d'autres acteurs qui auraient pu le jouer. Je pense que Claude Rich aurait pu le jouer. Très bien.
Certes.
C'était une des personnes à laquelle aussi j'avais inscrit sur ma liste. Aujourd'hui, tout le monde dit, mais c'est évident, c'est écrit. C'était pas évident. Quand les gens m'ont vu, on dit, mais c'est pas du tout le personnage. Vous ne connaissez pas Julie, c'est tout à fait lui. Et je me souviens, j'avais été voir Don Juan. Et en me le voyant dans Don Juan, je n'avais personne. Bon, il y avait bien sûr Claude Rich, mais Claude Rich posait des problèmes de théâtre, d'autres choses. Bon, enfin, je parle avant que la série soit faite. Et en le voyant dans Don Juan, vous voyez, cette désinvolture. Puis en voyant son côté un peu, lorsqu'il est avec les deux filles, et puis lorsqu'il est avec le... Comment s'appelle-t-il? Le paysan, le marin. Enfin, tout ça, j'ai dit, bon, il y a de ça. Je suis rentré chez moi et j'ai dit, c'est des crières. J'ai téléphoné à l'ORTF, parce qu'on avait un problème, et le responsable des coproductions m'a dit, mais quelle bonne idée! Et puis nous avons été tous les seuls, c'était Jégu, de l'ORTF. Et puis là-dessus, nous avons eu des avis terribles, je ne veux pas citer de nom pour ne pas faire des cas de personnes, mais je suis tombé quelquefois à la renverse sur les gens qu'on m'a proposés pour jouer Lupin. Et maintenant, tout le monde dit, c'est lui. Mais c'est pas si simple, voilà.
Non, je crois que dans le...
Quand il a imposé un Lupin, effectivement.
Quand on voit la réalisation, le bilan est évidemment excellent.
Irrésistible et parfois invisible, le bel Arsène. C'est un perceur de coffre-fort, c'est un casseur de joli cœur, le redresseur de tous les torts. Arsène, c'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant. Arsène, quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans sorcelle, Arsène. C'est le roi des tombes. Il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, le bel Arsène.
C'était Le texte à la marge, Arsène Lupin à la télévision par Françoise Favier, première diffusion sur France Culture le 8 avril 1971.